Quel est votre plat préféré ?
Les gambas grillées à la planche.
Le couscous, on va dire.
Le rougail saucisse.
Les huîtres.
Les pâtes.
Je ne suis pas d'origine italienne, mais en ce moment, je fais beaucoup de lasagnes.
Moi aussi, je fais beaucoup de lasagnes.
Les lasagnes.
Le gratin dauphinois, le plat de mon enfance.
À langouste.
Qu'est-ce qu'un bon repas ? Pour m'aider à répondre à cette question, j'ai appelé mon père et mon grand-père.
Allô.
Allô, ça va ?
Oui, mon poulet. Salut, mon pote.
La toute première chose qu'ils m'ont dit, être accompagné de personnes qu'on aime, amis ou famille, il faut une bonne table pour un bon repas. Pour mon père, un repas, c'est l'ambiance, un lieu intime et convivial. Ensuite, il faut plusieurs plats.
Entrée, plat, dessert.
Le moment et les conditions du repas vont nous le faire apprécier différemment. Pour mon grand-père, il faut que le repas soit agréable à voir, consistant mais avec des originalités qu'on ne retrouve pas dans notre cuisine quotidienne. C'est le résultat d'un subtil mélange d'ingrédients précieux. Un bon repas, c'est surtout la préparation. Et la préparation, il faut la partager avec tout le monde et pendant toute la matinée. Moi, par exemple, un ingrédient qui me semble donner plus de saveur, c'est les aventures qu'on peut vivre autour d'un repas. Comme manger des pâtes en haut d'une montagne après une longue randonnée, ou manger un sandwich au bord d'une falaise, ou faire des lasagnes au milieu de la mer. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. C'était sur un voilier, le Laisse-dire qu'il s'appelait. On était neuf, on avait notre équipement radio, et on a mis le cap au large pour enregistrer notre émission de radio.
Il y a quelqu'un qui coupe les pommes.
Voilà. Après, il y en a un autre qui peut beurrer le plat.
Basil.
Clac.
Alors, au boulot.
Coucou les amis. Aujourd'hui, c'est l'atelier Mamie Gâteau.
Tu m'as dit, tu prends le beurre, tu tartines. J'ai pris le beurre, j'ai tartiné.
Tu prends un bout de beurre.
Ah.
Alors, c'est d'abord, c'est le sucre.
Eh, le cuistot, là. On les épluche, les pommes, c'est un gâteau.
Les œufs, là habituellement on en met deux, donc là on mettra quatre. Alors c'est parti. Attends, faut pas tout mettre, faut mettre à la suite. Les trucs à la suite et on mélange tout à la fin.
J'ai fait tomber une pomme par terre, mais c'est pas grave, on va quand même la mettre, personne ne saura.
Parce que je sais que c'est toujours 1,5 de sucre parce que mon père il en met toujours deux et que ma mère elle lui dit toujours mais c'est trop sucré, tu mets toujours trop de sucre. Parce que je mélange toujours tout à la fin parce que si on mélange au fur et à mesure, il y a par exemple deux ingrédients qui se mélangent et après ils vont se mélanger avec le reste. Sauf que du coup chaque ingrédient se mélange pas forcément avec tous. Alors ensuite, habituellement, on aurait mis la levure. Alors faut aller chercher de la levure.
Ah, grosse coquille.
Et bah là, on met les œufs dans le gâteau. Alors, maintenant, faut mettre de la farine. Tu veux la mettre ou je la mets ? On va mettre, du coup, habituellement, on met 3 pots. Donc là, ça va être 6 pots.
Allez.
Tac. Et du coup, nous, on va mélanger.
Voilà.
La pâte, elle est finie. On touille bien pour pas qu'il y ait des grumeaux. Et après, on met tout ça dans le moule. Oula. Bah là du coup je vais verser ma pâte sur mes pommes qui sont dans mon saladier. Le four à 180, 30 minutes.
Et voilà, c'est le moment d'enfourner la bête. Et ça va balancer. C'est possible que le gâteau cuise que d'un côté. Avec la gîte. 30 minutes à partir de
18h18,
top chrono.
Un petit gâteau ?
C'est maison.
Ah bah moi, je veux bien goûter.
C'est quoi le nom déjà ?
C'est les paniers solidaires.
C'est quoi vos actions que vous faites ? Comment ça fonctionne ?
Alors, au départ, c'est une initiative qui est née pendant le premier confinement. C'est l'association Manalia qui porte le projet. C'est une association d'artistes. On fait pas mal de choses dans le domaine culturel, mais on faisait rien dans l'alimentaire. Et pendant le premier confinement, il n'y avait plus moyen de s'alimenter autrement que dans les supermarchés. L'idée des paniers solidaires, c'était de mettre en contact directement les producteurs locaux et les clients. Donc au départ, on faisait quasiment que des paniers de fruits et légumes avec des producteurs locaux. Et comme c'était une initiative bénévole, on n'appliquait aucune marge commerciale, simplement une petite marge de, je crois qu'à l'époque, c'était 5% pour faire des paniers aux foyers les plus précaires. Donc ça, c'était l'idée de base, mais ça ne devait pas du tout être quelque chose de pérenne. Mais devant le succès, aujourd'hui, on est 2 ans après, on a 700 adhérents. Ben, on a décidé de prolonger l'aventure.
Et c'est quoi le fonctionnement des familles qui sont dans le besoin ? Comment ça marche ? Il y a une adhésion ?
Ah non, alors On n'a aucun critère, on ne regarde pas les revenus, on tchatche un peu avec les familles et on donne à tous ceux qui nous le demandent. Donc là, on est actuellement confronté à un problème d'ampleur parce qu'on donne entre 15 et 20 paniers par distribution. Et à chaque distribution, on a des nouvelles familles qui viennent nous voir parce qu'elles ont des difficultés pour bien se nourrir. Et puis c'est vrai que dans le champ de l'aide alimentaire, il y a l'aide alimentaire publique traditionnelle, déjà qui est très contrôlée, avec des critères de revenus, et puis sur des temporalités courtes, quoi. Donc on en bénéficie pendant 3 mois, et puis après... Et puis surtout, c'est de la nourriture, le critère qualité n'est pas pris en compte, quoi. Donc il y avait aussi beaucoup de familles qui bénéficiaient de l'aide alimentaire publique, qui sont venues au panier solidaire, et sont hyper contents d'avoir des aliments de qualité. Et donc on est en train de réfléchir à comment on fait pour pouvoir aider tout le monde. Donc, c'est en réflexion.
Eh bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
J'ai mangé tranquillement une pizza dans un restaurant italien. Et tout d'un coup, j'entendis une voix. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Ça doit être dans ma tête, mais je l'entendis à nouveau. La voix provenait de ma pizza. Saludos, güey.
Quoi?
Oui, toi, pendejo. Je te parle à toi. Est-ce que c'était un rêve? J'ai regardé ma pizza déconcerté. Je me suis pincé et claqué pour me réveiller. Mais tout était pareil.
Bonjour. Bonjour.
Ah, tu me réponds enfin, pinche way. J'ai cru que t'étais sourd.
Qui es-tu?
Je suis une sauce de tomate qui a parcouru un long voyage. J'aimerais te raconter mon histoire avant que tu me manges.
Ok, d'accord. Dépêche-toi, parce que j'ai faim.
Je serai pas longue. Mon histoire commence à Sinaloa, Mexico. J'ai été une petite plante heureuse. On m'arrosait presque tous les jours et le soleil m'offrait son énergie. J'étais entouré de mes semblables. Tous rêvaient de devenir de magnifiques tomates. Mais moi, je rêvais d'autre chose. Je voulais me sentir réalisé, entier. Connaître le monde, savoir qui je suis. Au-delà d'être une tomate, il doit bien y avoir autre chose. Les autres ont commencé à m'exclure.
Tu te poses des questions bizarres.
Tu dois devenir
une tomate exemplaire.
Avec le temps, je m'accommoda à ces normes pour me sentir inclus. Mais dans le fond, je me sentais vide. Et arrive le jour où nous devions quitter nos plantes et répondre à notre devoir.
Être une sauce de tomate exemplaire.
Tous étaient heureux et je fondais de l'être aussi. On nous transforma en sauce tomate dans une conserverie et on le transporta en ferry vers l'Italie. Certains furent emmenés dans des supermarchés et d'autres dans des restaurants. C'est comme ça que je suis arrivé dans ton assiette. Maintenant, tu peux me manger. Elle finit de raconter son histoire et je me rendis compte que j'avais les larmes aux yeux. Je me suis identifié à son histoire. On m'a toujours dit que je devais être quelqu'un que je ne souhaitais pas être, comme ces tomates. On m'a désapprouvé parce que je pensais différemment, comme cette tomate. J'ai dû me conformer à cette société. Alors que je ne souhaitais pas, comme cette tomate. Je suis devenu quelqu'un que je ne voulais pas être. Alors, j'ai décidé de changer ma vie, d'être libre. Je demandais une boîte à emporter pour la pizza. Je l'ai rangée et je suis parti parcourir le monde, avec elle sous les bras.
El equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Dale la c'est une passion qui m'est venue par tout ce qui est culture japonaise, donc qui est nourriture, coutumes et même tout ce qui est lame de couteau, katana, tous les trucs comme ça. Alors pour les sushis, il faut... Enfin pour les... Moi je parle pour les sushis de base, dire riz saumon. Il faut du riz sushi, du vinaigre de riz, du sucre. Il faut le saumon, thon ou poisson blanc. Moi j'ai commencé à pêcher à l'âge de 6 ans. J'ai pêché... D'abord je pêchais à la cuillère, donc c'est un leurre qui tourne pour faire des vibrations et de la lumière. C'est par choix. Il y a bar, loup, tout ce qui est comme ça. Pour la cuisson du riz, c'est... On le rince 4 à 5 fois pour enlever tout l'excès d'amidon. Je crois que c'est ça. Après, il faut le faire cuire pendant 10 minutes. Par exemple, il y a la pêche au leurre, donc qui marche sur les carnassiers, qui sont des prédateurs, donc qui mangent d'autres poissons. Une fois que c'est cuit, on enlève l'eau. On rajoute du sucre qu'on a fait fondre avec de la vinaigre de riz. La pêche au vif, qui consiste à prendre à pêcher des petits poissons pour pouvoir les attacher vivants à un hameçon. Ça donne ce qui donne le goût particulier au riz. Mais dans l'eau, la queue tourne, ce qui fait du bruit, donc des vibrations qui attirent du coup les poissons. On attend que ça refroidisse, parce que vu que ça vient de sortir, c'est très chaud. Pendant que ça refroidit, on peut couper le saumon ou le poisson. On commence par retirer la peau. Après ça s'appelle un chatterbait. En gros, ça consiste à l'attacher comme ça. Et avec l'eau, ça fait des vibrations comme ça. Après, on enlève les arêtes s'il y en a, à la pince à épiler ou tout ça. Et ensuite, on fait des sortes de rectangles assez nets. Même s'il y a du gâchis, on va pas le gâcher parce qu'au final, on va faire d'autres trucs avec. Comme par exemple des pokéballs, des trucs comme ça. Donc on coupe des fines tranches en rectangle. Après le riz, on se mouille les mains. On fait une sorte de petite boule. Il faut qu'il y ait 30% de riz et 70% de poisson. On met un petit peu de wasabi entre la tranche de saumon et du riz. Après ce soja salé sucré, ça c'est suivant les goûts. Et on peut... mettre une tranche de gingembre si on le souhaite. Mais dans la culture japonaise, c'est pour se rincer la bouche entre deux sushis.
Donc, est-ce que vous savez ce qu'on fait ici, moi, la criée ? Non ? On crie ? Le circuit du poisson, il commence sur le quai. Donc, les pêcheurs débarquent sa pêche hein, et il apporte le poisson à la criée. Il nous confie la vente de son poisson. Et on va pas perdre de temps. Cette palette, on va la placer directement dans la chambre froide. Chaque premier bac, on va dire, hein, du bateau, on va l'identifier. On a une plaquette avec le nom du bateau. Et on sait que tous les bacs qui suivent appartiennent au même bateau. Ici, j'ai une personne qui est très très importante pour la criée. Ben, c'est le crieur. Et lui, son rôle, c'est de déterminer un prix de départ pour la vente aux enchères. Seulement tout ça, il doit le déterminer en seulement 3 secondes. Son bac arrive, il rentre les informations, il valide son bac repas. Hop, le plus rapide possible. Donc on va éviter d'être trop lent. Donc bon, il faut aller vite. Donc plus vite, on va l'expédier. Je vous parle de cadence. Vous allez voir, ça va quand même assez vite. Une fois que c'est validé, tout au long de ma salle de vente, j'ai un tapis qu'on appelle un convoyeur. Le bac, il va poursuivre son chemin, du coup, hein, et il va passer devant une zone de présentation. Et si on est intéressé, le réflexe, hop, on a juste appuyé sur le bouton, il y a le nom qui apparaît. C'est le début de la vente aux enchères. C'est clair ? Donc, je vais avoir ici le nom du bateau qui a pêché le poisson. Ici, j'ai l'espèce qui est présentée dans le bac. Ici, j'ai mon poids qui est déterminé par la balance, à ce niveau-là. Ici, j'ai des codes. C, c'est le calibre, c'est la taille du poisson. F, donc c'est la fraîcheur, hein. Pas de panique, il y a écrit E. Hein. E, c'est extra. Ou fraîcheur V. V, c'est vivant. C'est pour tout ce qui est crustacé. Et P, c'est la présentation. Donc 11, chez nous, par exemple, c'est un poisson qui est vendu entier. Hein. 12, c'est pelé. 13, c'est vidé. Hein. Plusieurs présentations différentes. Ici, on va avoir le prix de départ, 80 centimes. Et si vous regardez ici, mes 80 centimes, ils baissent, effectivement. On vend aux enchères chez nous, mais on ne vend pas aux enchères montantes. Chez nous, on vend aux enchères descendantes. Ça baisse de 2 centimes par 2 centimes. Le crieur, finalement, il détermine un prix de départ qui est haut. Automatiquement, avec le temps, le prix, ben, il baisse. Dès que le prix va atteindre le prix minimum de retrait, on s'engage à acheter le produit au prix minimum de retrait. Au niveau des acheteurs, je peux avoir donc des poissonniers. Quand je parle de poissonniers, je parle également des grandes et des moyennes surfaces. Également, je peux avoir des marailleurs. Alors les marailleurs, ce sont des grossistes hein, qui achètent et qui revendent le poisson, qui l'achètent à revente. Je vais avoir également des courtiers. Et pour terminer, j'ai des restaurateurs poissonniers. Les restaurateurs tout simples, nous, on n'a pas le droit de les accepter à la criée. C'est clair? Une fois que c'est vendu, on va étiqueter le bac. Sur cette étiquette-là, on a le nom de l'acheteur qui
va. Radio, let's do.
Passe ensuite ton bac par en somme beau.
Riquisse.
On va glacer le bac.
La radio qui titille et moustille tes papilles.
La radio du plaisir.
Tartem bon.
Moi, je suis Véronique Brito et je suis la directrice commerciale de la conserverie Azaïs Polito depuis bientôt 30 ans. On considère qu'on a une mission et qu'on doit s'inscrire comme des sentinelles de la qualité. Ils représentent la fine fleur de l'artisanat français. Bon, aujourd'hui, on se retrouve donc sur cette zone qui est à quelques kilomètres du centre-ville de Sète, sur les bords de l'étang de Thau, à 1 km du quartier de la Pointe-Courte, voilà, qui est un des quartiers de pêcheurs les plus typiques. Et ça nous va très bien, puisque la cuisine sétoise a débuté sur les bords de l'étang de Thau, et notamment sur ce petit quartier de la Pointe-Courte. Je comprends ce que vous voulez dire. Il fut un temps où, effectivement, les marchandises voyageaient en bateau. Hein. C'est ce, d'ailleurs, qui a fait la notoriété du port de Sète, qui était un grand port commercial à la fin du 19e siècle. Beaucoup poussé aussi par le pouvoir qui était en place à l'époque. La création du port de Sète, c'est le roi Louis XIV hein, qui a initié la première pose du port. Il faut se remettre dans le contexte. C'était dans les années 60. Donc on a été les premiers à mettre sur le marché la soupe de poisson de roche à la sétoise, puis dans une suite logique, la rouille sétoise, et puis ensuite les moules et les encornets farcis à la sétoise.
Une bonne conserve, c'est comme la bonne cuisine, elle doit être honnête, sincère et simple.
Ah, alors avec les produits d'Azaïs Polito, moi j'aime tout chez Azaïs Polito, mais c'est vrai que la soupe de poisson avec la rouille, c'est quand même ce qui reste aujourd'hui le produit phare. Voilà.
Merci.
Je vous en prie.
J'ai jamais dit ce que je faisais. Jamais. Personne ne le sait. À part à la crier, quand je vais la crier, c'est eux le voient. Quand il y a beaucoup, je dis, ça va. Tu vois. Et comme souvent, il n'y a pas grand-chose, je dis la vérité. J'ai été élevé comme ça. Mon père était comme ça. Et qui me disait, ne dis pas pour pas que les autres y viennent. Tu vois, c'était dans un coin. Parce que ça travaille beaucoup avec les yeux. Mais un vrai pêcheur, il ne te dira pas ce qu'il fait. Petit métier, petit bateau. On ne va pas dans les grands fonds, on reste dans les temps. Voilà. Depuis l'Europe. Parce qu'avant, on avait le droit d'aller à la mer. Et depuis l'Europe, on n'a plus le droit d'aller à la mer. C'est le bateau qui n'a plus le droit d'aller à la mer. C'est comment ça? En allant de l'avant, des bateaux plus gros, je pense qu'ils se sont fait du mal. Mais déjà, c'est fini, il n'y a plus d'avenir, là. Au petit métier, il n'y a plus rien. Je continue pour commencer à jouer bricole. J'ai passé ma vie. Le bateau, je ne le vendrai pas, le bateau. Il a 42 ans, le bateau. J'ai passé ma vie là-dessus. Pas le vendre.
Oui, bonjour.
Ah. Bonjour.
Et alors, qu'est-ce que bonjour. Vous faites? Vous pouvez nous expliquer un petit peu?
C'est moi qui fais le poisson, vous voyez. J'achète du métal. Après, je dessine le poisson. J'aime ça, quoi. Vous voyez, le poulpe, quoi. C'est en fer.
Ça fait rien. Est-ce que vous pêchez?
Non. C'est j'ai pas... jamais tenu une canne à pêche. Hein. J'étais pêcheur professionnel. Les palourdes, les moules, les huîtres sauvages, hein, dans l'eau, avec la vie de mon grenouille, hein, okay. Ou avec les outils traditionnels.
Et ça se fait encore?
Non, il n'y a plus rien.
Ah ouais?
Il y a eu un virus qui a tout tué les tames. C'est dur, hein? Il n'y a plus de palourdes, plus de clovis, hein, et plus de huîtres plates sauvages. Hein. Ça, c'est pour pêcher les huîtres plates, ça. On a fait de ça une drague, toi. Hein. Alors, ça, là, ça effleure le fond. On la met sur le bord du bateau, à l'arrière, et on la fait glisser. Et avec la corde, on le sent dans la tête, on le sent. Mais doucement, hein? Sinon, ça abîme le fond. Hein.
D'accord.
Et après, les palourdes, avec ça. Oui, c'est lourd, hein? Oui! Et ça va dans l'eau, on le jette à l'eau. Et ça, ça coule avec le poids, toi. Et moi, du bateau, en haut, je le mets à l'épaule, toi. Je mets comme ça, toi, attends. Et j'appuie ici, là, et j'avance doucement, doucement, doucement sur un mètre. Automatiquement, le filet, il est plein de sable et de petites pierres. On le sent parce que quand il est plein, le filet, que l'arcéière, c'est le nom de l'outil, ça remonte un peu, toi, ça se déterre à toi.
D'accord.
Donc, avec les deux mains, on le monte, et une fois arrivé au bord, là, oui. Du bateau, on la tourne, là, comme ça.
On le vide.
Et avec cette corde, là, on rince comme ça, et tout le sable, il tombe au fond. Mm-hmm. Avec les petites palourdes, les bébés palourdes, tout va au fond pour la reproduction. Et après, on recommence, c'est toujours pareil, pendant 4 heures.
Eh ben
Josiane, c'est mon prénom. Et Isoar, c'est mon nom de famille. Hein? Pointe courte, 7, c'est tout.
Merci beaucoup pour ces explications.
Radio Laisse Dire, la radio qui prend l'air.
La radio qui met le cap au large.
Oui, bienvenue.
Femme trois mâts, fin comme un oiseau.
Lycéo.
Donc je suis Jean-Jacques Guillemin.
Merci de vous accueillir sur votre bateau. Ici, on est où?
Au Gros d'Agde, sur le chantier allemand. Donc c'est un chantier naval qui a pendant longtemps construit des tonniers, par exemple. Et puis maintenant, c'est du bateau de plaisance. Voilà.
Historiquement, les bateaux qui transportent le fret, ils étaient comment?
C'est vaste. Il y a autant de modèles qu'il y a eu de solutions ou de besoins. Quand on a commencé, par exemple, à transporter du pétrole, on a fait des bateaux qui avaient des cuves et qui transportaient des liquides, ou du vrac de minerais. Puis d'autres ont transporté du liquide qui était du vin, des tonneaux. À chaque fois, le bateau s'est adapté aux besoins. Puis aussi au programme de navigation. Selon les mers que l'on traversait, les bateaux étaient construits différemment par des gens qui avaient des cultures très, très diverses. Il n'y a pas un modèle par type de fret, c'est presque à chaque fois une histoire qui se raconte entre un charpentier ou un constructeur de bateau, un commerçant qui voulait récupérer une matière première quelque part. Donc on peut voir que là, des bateaux, il y en a des dizaines de sortes et des milliers de sortes peut-être même. Puis avec le temps, les choses ont évolué. Quand la vapeur est arrivée, les voiliers ont commencé à disparaître au bénéfice de la vapeur qui était plus rapide et plus efficace par tout temps. L'évolution s'est faite aussi avec la technologie. Puis on a transporté de plus en plus gros, de plus en plus lourd. Et donc les bateaux sont devenus de plus en plus grands et de plus en plus volumineux. Et il y a eu beaucoup de solutions et c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est de s'intéresser à ce qui a existé pour essayer d'en trouver les meilleurs arguments pour peut-être une vie future. On voit venir maintenant à nouveau des cargos à voile qui vont être de dimensions très variées mais qui vont permettre de transporter et continuer à faire ce commerce dans le monde grâce à une énergie renouvelable. Donc c'est ce qui est passionnant.
Comment est-ce qu'on emménage l'intérieur pour transporter des marchandises ?
On va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Certains commencent à se lancer, de refaire du transport maritime à la voile. Et donc, ils contactent des architectes. Ils définissent le type de matériaux qu'ils vont transporter. Donc là, par exemple, actuellement, il y a des entreprises qui se sont un peu spécialisées sur une liaison qui serait d'Amérique du Sud vers l'Europe. Donc, ils vont étudier, en fait, des bateaux, où ils vont définir des dimensions de cale en fonction du matériau transporté, donc là, du vrac de café ou de fèves de chocolat, et puis, dans l'autre sens, des tonneaux de vin ou des bouteilles de vin, et donc vont avoir des cales pas forcément immenses, c'est des bateaux qui vont être à la voile, donc on ne navigue pas à la voile comme on navigue avec un moteur. Et donc là, l'architecte et le constructeur vont adapter aux besoins, et ça va finir par définir un bateau qu'un architecte et un chantier naval vont construire.
Dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, l'évolution du transport de fret, vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que c'est une très bonne évolution. Vous êtes jeune, l'ère de l'écologie, de l'avenir qui est devant vous. Cette belle planète, on a eu un peu trop tendance à la laisser aux financiers et aux grosses entreprises. On a détruit la planète progressivement et on est en train de la détruire. Il faut revenir à des choses plus sereines, protéger la planète, naviguer à la voile avec une énergie qui est le vent, qui est quand même une très belle énergie. La seule différence, c'est qu'on a voulu faire un monde de rapidité, de vitesse. À la voile, il ne faut pas penser vitesse. Il faut penser météo d'abord, et c'est la nature qui va dicter le parcours et qui va dicter le voyage. Aujourd'hui, les voiles, c'est des choses qui ont grandement évolué grâce à la course en mer. Les technologies, les matériaux permettent maintenant d'avoir des rendements de navigation très importants avec la voile. Il y a d'autres choses à faire que de faire les plus grands et les plus longs bateaux du monde pour transporter des milliers et des milliers de containers dans un seul souci de rentabilité. On peut naviguer à la voile sereinement et transporter des masses importantes, d'autant qu'il faut revenir à des choses à échelle humaine, qui ne nous rendent pas dépendants de gros trucs qui fonctionnent certes très rentablement, mais qui n'ont pas de respect ni de la nature ni de l'humain.
Une dernière chose pour terminer. Vous nous avez dit quelque chose qui m'a marqué, c'est prendre le temps de vivre. Est-ce que vous avez autre chose à développer autour de ça ?
Ah, c'est ma philosophie depuis une dizaine d'années. En fait, on vit dans une société d'urgence. Tout doit aller vite. Tout doit être fini avant d'être commencé. La cuisine, ça demande du temps et de l'amour pour faire des choses bien. Donc, dans la vie de tous les jours, j'ai pris le principe de dire que je voulais développer d'abord du travail autour de ce que j'aimais faire, donc autour du bateau. Donc, je ne cherche pas à être le plus riche, je ne cherche pas à avoir le bateau le plus long. Mais je suis bien comme ça et je suis heureux comme ça. Dans mes voyages, j'ai rencontré des gens très heureux, vivant au quotidien de façon simple, qui vous reçoivent chez eux et qui vous disent « Tiens, regarde, je décroche le jambon, je l'ai fait cet hiver, je t'en donne un bout, ou voilà, te donner du pain, ou, parce que t'es en voyage, parce que t'es pas cela, et parce qu'ils ont envie de partager ». Et c'est ça la bonne vie, c'est ça le bon moment. C'est d'avoir envie de partager et d'échanger avec les autres. Voilà, je crois qu'il faut assimiler ça et comprendre ça, et puis après faire son choix. C'est sûr que c'est un choix de vie aussi. C'est un choix de vie.
Ouais, merci beaucoup.
Bonne continuation et voyagez bien en bateau. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être ? Encore. Voilà.
Merci.
Salut.
Certains se goinfrent à n'en plus respirer quand les quantités comptent plus que le goût, qu'on n'en voit plus le bout.
Certains crèvent la dalle, n'ont plus rien dans les cales, leur ventre fait mal à n'en plus trouver le bonheur, et ses têtes créent des leurs.
Des deux côtés ça ne va pas, mais la plupart des gens ne le voient pas, ne s'en préoccupent pas, ils ne se demandent pas pourquoi.
Vivre vite, tous ces plats à table.
Les costumés nous disent que ce n'est pas faisable, monde équitable dans cette société inébranlable.
Vivre vite, tous ces plats à table.
Dans cette cité incassable, des idées inchangeables, la plupart se disent que c'est impensable.
Les chefs du monde entier nous préparent les mets les plus raffinés, se réunir en famille pour les déguster. Les traditions culinaires ne sont pas minces à faire.
Quand les plats ont une date, on les attend avec hâte. On met tous la main à la pâte, la nourriture peut réunir, elle nous permet à tous de réussir.
La nourriture a des bons côtés, des millions d'années de traditions inchangées, mais des liens de sang réunis pour les fêter, tous ces plats, quelle beauté.
Vite, virer dans tous les pays. Pour trouver des goûts inédits, toutes ces différences, quelle magie, chaque manière vaut la peine, on m'a dit.
Vite, virer dans tous les pays.
Du lion au grain de riz, de l'industriel à l'artisanal, sur la nourriture, ce n'est pas si mal.
On vous a rencontré ce matin en faisant un micro-trottoir. Vous avez écrit une thèse sur le droit de l'alimentation. Est-ce que vous pourriez nous définir le droit de l'alimentation pour commencer ?
Je m'appelle donc Virginie Vallon et le droit à l'alimentation vient du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui a été signé en 1966.
Droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achat, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, qui doit respecter les traditions et les choix alimentaires de chacun.
Justement, la conclusion de votre thèse et les solutions
Ma conclusion, elle était de véritablement intégrer dans les traités internationaux cette fameuse conditionnalité universelle.
La clause de conditionnalité universelle.
Pour que les pays émergents puissent d'abord faire vivre leur population, notamment en tout cas pour l'agriculture, avant d'être des terres utilisées exclusivement à l'approvisionnement des pays du Nord. Puisqu'il faut savoir que la plupart des terres sont utilisées uniquement pour l'exportation et plus pour nourrir ne serait-ce que le paysan sur sa propre terre. Malgré que la terre produise davantage que les besoins humains, on est quand même à peu près à 2 milliards de personnes qui souffrent de la faim et qui ont des problèmes avec l'alimentation.
Frecuencia Marítima Internacional.
On a tous un truc à dire.
Las ondas viajan con las olas.
Hola, 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 hola.
Ce sera un écrasé de pommes de terre style aligot.
Sur une banquette.
pas ça. Basmati, basmati, basmati. Pour l'escuire. On arrive à la base. Le cake est libre.
Affirmatif, vous pouvez vous beurrer sans crainte.
Allez les moussakas, tout le monde sur le plat, nous allons concocter la manœuvre.
Oui mon cassoulet.
Pas de ragoût, hein?
Oui, ce sera assaisonné.
Ok, commençons à chouquer et enrober le viennois.
So, six, so, six, so, so, six, six, so, enrobé.
Et maintenant, face au flanc pour ricoter la grand voile.
La manœuvre est presque cuite. Paré pour l'émulsion.
Paré à débarquer. 5, 3, 1.
Et pour votre santé, prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester.
C'est bon, tout est dans la boîte.
De conserve.
Si vous étiez un aliment, vous seriez lequel?
Bon, je serais un légume, c'est sûr. Je vais pas prendre une carotte quand même. Non. Allez, une pomme de terre.
Mof. Ça marche avec tout, donc c'est parfait. On me sortirait tout le temps.
Ah, une tomate. Je platche.
Ah ben, on va dire un homard. Vous avez déjà entendu le cri du homard quand il est dans l'eau bouillante?
Oui.
Fleur plutôt, une fleur qu'on mange, on va dire. Cheese.
Une dorade, parce qu'elle est très maline.
C'est vrai.
J'allais dire le quinoa parce que j'en mange. C'est un peu craquant, même quand c'est bien cuit. Ça fait clic, plop, une tomate pour être au soleil.
Voilà.
Une très belle imitation, j'aime beaucoup.
Un abricot.
Et moi un bonbon.
Comme les Mistral gagnants.